Travelot mécanicien 75 660.
C'est toute une chaîne de personnes qui peuvent permettre à un train de rouler.
Gravelot, France Gravelot, appelle le mécanicien du 75 660 au panneau 500.
Rentrer dans cette société où il fallait tout céder pour que ça marche.
Déjà, se sentir bien dans son travail, être épanoui, c'est quelque chose d'assez fort, quoi.
Ce qui nous a tout de suite à la fois étonnés et en même temps inquiétés, c'est qu'on nous donnait les moyens de faire notre travail, quoi. Quand on travaille en tant que cinéaste, on est toujours sous la contrainte, que ce soit des chaînes de télévision qui vous imposent par exemple des formats de durée, des choses comme ça. Or là, on était devant une liberté totale, quoi. On ne nous a pas dit « on voudrait parler de ceci » ou « on voudrait parler de cela ». Les cheminots nous ont laissé le temps, et c'est souvent ça qui manque quand on est dans un travail de création et notamment de cinéma, c'est qu'on manque de temps pour prendre la dimension du sujet qu'on aborde. Et je pense que dans le cinéma documentaire, notamment sous la pression des chaînes de télévision, ce qui manque souvent, c'est le temps. Alors là, on a eu pratiquement 2 ans pour s'immerger dans un univers professionnel en plus qui est d'une complexité folle, et puis pour trouver le film qu'on allait faire, quoi, pour raconter l'histoire qui nous semblait juste et opportune de raconter.
Justement, juste et opportune, comment ont été déterminés les axes de ce travail cinématographique ?
Au départ, et c'était un peu pour ça que Robert Mancherini était dans le coup, entre guillemets, parce que je pense que le désir de film chez les cheminots, il est né du travail qu'ils avaient réalisé précédemment, c'est-à-dire l'édition d'un livre d'histoire que Robert Mancherini avait dirigé, et dont je pense au fond d'eux, les représentants du CE étaient un peu sur leur faim quant à l'accueil que les cheminots avaient réservé à ce livre, qui finalement retraçait l'histoire du chemin de fer et du mouvement social cheminot en PACA. Ils espéraient que ce soit le moyen de faire partager cette mémoire, notamment avec les jeunes cheminots. Et je pense que le CE était resté un peu sur sa faim, sur la manière dont le livre avait été accueilli, et s'était dit à un moment, peut-être que le cinéma serait un média plus approprié pour toucher ce public-là. Donc en fait, le point de départ a été ce livre-là. Nous, on leur a dit tout de suite, d'une part, que nous, ce qu'on souhaitait, même si on n'avait pas l'idée du film, a priori, que ce qu'on voulait poursuivre, c'était le travail qu'on avait commencé avec les réquisitions de Marseille, c'est-à-dire un travail d'exploration cinématographique de la question du travail. Et chemin faisant, à force de s'immerger dans les lieux, à force de rencontrer des cheminots, etc., on s'est rendu compte que la communauté des cheminots était en train de vivre un moment historique fondamental dans son histoire, et c'est ce moment-là qu'on a voulu observer cinématographiquement.
Et ce moment historique fondamental, c'est
Ce moment historique fondamental, c'est tout simplement que l'histoire de cette communauté, alors en PACA mais à l'échelle régionale, l'histoire a produit du collectif. Au départ, on avait, à l'arrivée du chemin de fer en France, on avait des lignes isolées, non reliées les unes aux autres, et des lignes privées. Au fil de l'histoire, ces lignes-là ont été unifiées dans un réseau qui a irrigué un territoire, qui a permis au territoire national de se développer, qui a relié des régions entre elles. Donc d'une part, on est arrivé par le temps de l'histoire à un réseau unifié. Et puis, au départ, les cheminots, c'était une diversité de métiers très différents les uns aux autres, que finalement, l'histoire a progressivement réuni sous un seul et même statut, un statut qui a même précédé la création de l'entreprise SNCF. Et aujourd'hui, parce que le chemin de fer français s'ouvre à la concurrence, parce que des logiques, notamment les néolibérales, s'imposent à ce secteur de l'économie, l'histoire part en arrière, quoi. On revient à de la division, on revient à du démembrement, on en arrive à de l'isolement chez les cheminots. Et donc c'est ce moment particulier qu'on a voulu observer, mais en l'observant à l'échelle de l'individu dans son travail quotidien.
Quand chacun des cheminots travaillera pour TER, VFE, ou peut-être Air France, ou peut-être Virgin, eh bien, les choses seront encore pires, parce que on ne travaillera plus pour le même prestataire de service, donc on n'aura même plus besoin d'échanger. Et ce qui est terrible, c'est que dans la relation, la solidarité, on va s'en foutre. Quoi. Un train qui est un gars qui arrive du TER, par exemple, et qui est à la bourre et qui doit prendre un train Virgin et qui le rate. Eh bien, comment on va le traiter, ce gars-là? Virgin, il va dire, moi, je m'en fous. Hein. C'est pas moi qui est à la bourre. Hein. Moi, j'ai fait partir mon train à l'heure. Hein. C'est le train TER. Hein. Donc, c'est à TER de se démerder.
André, juste à la voie de Lyon, il y a le 515 qui est tracé avec un quart d'heure, là. Il y a un voyageur pour Toulon, du coup on est sur la Corrèze, voie L sur voie 5 et c'est le petit Alain qui attendra. Pour...
Aujourd'hui là où on met l'argent c'est sur les TGV parce que ça remplit le plus de monde. Et après sur les TER, eh ben, la SNCF n'arrive pas à mettre les moyens que la région par exemple voudrait avoir. Et donc les exemples ils sont là quoi. D'un quai à l'autre, vous avez un gars qui vient en gare tous les jours bosser, qui se prend au moins son heure de retard tous les jours, si ce n'est pas plus, qui est hyper excédé, qui voyage dans des conditions difficiles, parce que souvent il n'y a pas assez de voitures, donc ils sont coincés les uns sur les autres, ils ne peuvent même pas s'asseoir, ils font la moitié du voyage debout. Et en face, on a des TGV qui sont pratiquement tout le temps à l'heure, avec des prestations de service qui sont excellentes. Donc c'est ça que nous, on vit mal, quoi. On vit mal parce que cette séparation financière, elle sépare aussi les gens et elle sépare les voyageurs face à l'accès au train.
Regardez ça parce que j'ai la voie G à faire partir, la voie H à faire partir et si en même temps il faut que je monte à la voie 5, ça va être dur.
Robert Mecherini, donc Luc disait à l'instant vos liens étroits avec la SNCF, vous êtes historien, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. Est-ce que vous confirmez ce que Luc dit à l'instant, c'est-à-dire que ce qu'on nous présente comme une modernisation de la SNCF aujourd'hui, c'est-à-dire privatisation des trains, des lignes, séparation des activités, tout ça. Est-ce que c'est un retour en arrière, c'est-à-dire est-ce qu'on retrouve ce qui existait avant la constitution de cette grande entreprise nationale de services publics ?
Cette création montre ce qui se passe aujourd'hui. Véritablement, la SNCF est chez les cheminots, c'est-à-dire un immense désarroi qui est une perte de... L'état d'esprit qui régnait de solidarité, de service public, qui régnait chez les cheminots, en mettant en avant la rentabilisation. Mais dans le film, on le voit très bien. Hein. On a l'exemple de la Grande-Bretagne, et Ken Loach montre qu'en Grande-Bretagne, on a vu privatiser, on est obligé de faire marche arrière. C'est pas un hasard. Hein. Si en France, il y a eu la SNCF, tous les chemins de fer en France ont été unifiés. Et d'un coup, on essaie de diviser ce qui a été créé par un siècle hein, de construction. À mon avis, je pense que ça ne marchera pas avec qu'il y aura un retour forcément au service public.
En attendant, la transformation du métier de cheminot semble très très profonde. Les choses sont de plus en plus cloisonnées, les gens sont de plus en plus isolés. Les cheminots voient débarquer sur les quais des trains fantômes, qu'ils appellent. Ils n'ont pas prévenu que les trains arrivent avec d'énormes soucis de sécurité. C'est quand même...
Non, mais c'est clair qu'il y a un désarroi qui est profond, qu'il y a... Alors quand même, en même temps qu'il y a ce désarroi, je pense qu'il y a une question fondamentale qui est comment faire le lien avec les voyageurs sur ces questions-là, quoi. Comment partager une vision commune d'une certaine idée du train, de sa place dans la société. C'est clair qu'après, notamment le mouvement social de 95, où les cheminots ont été quand même le fer de lance de ce mouvement, on a dit même que grâce à eux, la France entière avait fait grève par procuration. Je pense qu'il y a eu clairement de la part autant de la direction de l'entreprise que des instances politiques, la prise de conscience qu'il y avait là un point de résistance, que si on voulait faire appliquer les logiques, notamment européennes, d'ouverture à la concurrence, il fallait faire sauter. Il suffit de voir comment depuis, notamment les médias, se sont employés à dénigrer systématiquement cette profession-là. Donc aujourd'hui, oui, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent quand ils viennent travailler. Il y a des gens qui souffrent quand ils entendent, notamment dans les médias, quand on parle d'eux. Mais malgré tout, nous, ce qu'on a pu constater, parce qu'avec le film, on voulait pas faire un syndrome du Titanic de plus, quoi. Nous, on n'était pas là pour enterrer de façon cinématographique la profession de cheminot. On s'est malgré tout rendu compte que même si la situation est compliquée, il y a effectivement des valeurs fondamentales qu'ont structurées les individus, qu'ils soient anciens, qu'ils soient plus jeunes, qu'ils soient récents dans l'entreprise ou qu'ils aient déjà plusieurs années de chemin de fer. Il y a des choses fondamentales qu'ont constitué les individus par le travail. Et que ces choses-là, malgré tout, même si c'est dur, ces choses-là, elles persistent.
Robert Mancherini, pourquoi ces valeurs sont ébranlées aujourd'hui ?
On a affaire à plusieurs crises. Hein. On a une crise des valeurs, on a une crise économique, bon là, c'est pas la peine de développer. Hein. Donc ça se retranscrit directement chez les cheminots, le désarroi que l'on sent dans le film. Alors c'est pas le syndrome du Titanic, hein, comme disait Luc, parce que y a des valeurs qui subsistent, qui ont été créées par le travail, qui ont été créées par les luttes passées. Mais on voit très bien hein, ce qui est en train d'être cassé aujourd'hui. C'est-à-dire cet esprit d'entreprise, cet esprit de service public. Alors ça, c'est peut-être ce qui sera le plus difficile à rattraper par la suite. Hein, parce que quand les personnels se désintéressent, peuvent arriver à se désintéresser du travail parce qu'ils ne le contrôlent plus, parce qu'ils ne maîtrisent plus, bon, c'est quelque chose d'absolument terrible. Et c'est là qu'on voit que ce film met en évidence des choses qui d'habitude sont cachées. Hein, c'est-à-dire non seulement le travail des cheminots, mais aussi ce que pensent les cheminots. Et ça, c'est un exploit que je salue en tant qu'historien, parce qu'en général, quand on a voulu représenter le travail, alors déjà bon, au début du siècle, hein, quand on disait on va prendre une photo d'ouvriers au travail, les ouvriers s'arrêtaient de travailler, hein, ils prenaient la pause. Et là, l'exploit qu'ont réussi Luc et Sébastien, c'est non seulement de filmer des ouvriers qui travaillent, de montrer leur travail, mais aussi de nous faire partager ce qu'ils pensent. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je crois que beaucoup de personnes, lorsqu'elles voient ce film, disent « Je comprends en fait ce qui se passe lorsque mon train est en retard et que ce n'est pas la responsabilité seule des cheminots. »
On veut nous faire travailler comme une entreprise lambda et qu'une fois qu'on sort de l'entreprise, on ferme le rideau et qu'on ne pense plus au chemin de fer. Moi, je vis chemin de fer. L'engagement ouvrier, l'engagement... Quand je regarde un peu mon passé et tout, je pense que ça fait partie de moi. Mais disons, il s'est accentué ici. Ici, j'ai appris à l'exprimer. La valeur d'engagement, c'est de faire en sorte que les gens prennent un train de qualité. On se bat pour ça. Aujourd'hui, si le travail n'est pas de qualité, c'est pas forcément notre faute. Moi, je vis mal parce que même des proches, que ce soit des amis, les gens face à nous, on a l'impression qu'ils nous prennent un peu pour des fainéants, des nantis. Quand les gens ils rentrent un peu dans notre univers, j'ai l'impression qu'ils arrivent à le comprendre. Des fois, par contre, les cheminots, ils ont du mal à l'exprimer. Ils ont du mal à l'expliquer.
Question de ce service public, du lien à la société donc et de ce public. Pourtant, on n'entend pas beaucoup, pas du tout même, je crois. Alors, l'usager ou le client, selon les terminologies employées selon les périodes, donner son point de vue aussi, son ressenti, son sentiment sur l'importance qu'a ce chemin de fer pour lui. Quoi.
Ouais, c'était pas une enquête journalistique hein, qu'on faisait. Donc, on avait effectivement faire un film, c'est choisir un point de vue, quoi. Voilà, c'est affirmer un parti pris. Nous, le parti pris qu'on avait choisi, c'est d'être derrière le guichet, quoi. En gros, c'était pas d'être d'un côté puis de l'autre. Mais malgré tout, les usagers sont présents dans le film. Mais comme la préoccupation permanente de ceux qui travaillent, quoi. Moi là maintenant j'ai cette séquence à Saint-Charles où effectivement, bien que ce soit pas autorisé, tout d'un coup on voit deux cheminots qui se disent on va faire une correspondance sauvage, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte d'aller chercher des voyageurs qui arrivent de Toulon d'un TER pour qu'ils réussissent à prendre le TGV. La correspondance, elle n'est pas autorisée par la hiérarchie. C'est eux, par rapport à des valeurs culturelles liées à leur travail, qui se disent « il y a un TER qui arrive en retard, il y a des voyageurs qui doivent prendre ce TGV-là, on va assurer la correspondance de notre seul fait. » Voilà. Et je pense que l'usager, il est là. L'usager, il est présent dans le travail, dans les préoccupations, dans les gestes, dans les attentions professionnelles des cheminots, quoi.
Il y a un procédé qui est employé à plusieurs reprises dans le film, c'est de projeter des images d'autres films, notamment l'arrivée du train à Gare de Sautière des Frères Lumière ou la bataille du rail in situ. Quelle est l'idée derrière ça ?
Oh, l'idée derrière ça, c'était de se dire, d'une part que le cinéma et le train ont une histoire assez intime. Le cinéma, finalement, il est né quand deux cinéastes ont posé une caméra sur le quai d'une gare et ont observé ce qui se passait quand un train arrivait dans une gare. Donc il y a une histoire commune. Et puis surtout pour nous, c'était l'idée, parce que toutes les références cinématographiques qu'ils ont présentes dans le film, c'est pas des trucages vidéo, c'est vraiment des projections, et que pour nous c'est l'affirmation que le cinéma, oui, a une raison d'être fondamentale, c'est d'éclairer la réalité, quoi. Le cinéma, il est fait pour faire la lumière sur des choses qui nous environnent au quotidien, qui sont a priori banales. Quoi de plus banal qu'un train qui arrive dans une gare, mais quand les frères Lumière le filment, tout d'un coup on voit que le paysage est vide, l'environnement est vide de toute personne, et il suffit qu'un train arrive et le quai se remplit de voyageurs, le quai se remplit de gens qui vont, qui viennent, aussi différents les uns que les autres. Et finalement on est parti de ce point de départ cinématographique pour se demander, voilà, est-ce que le train va pouvoir continuer à mettre la société en mouvement ? Et que l'on projette la bataille du rail à des jeunes syndicalistes cheminots d'Avignon, ou qu'on projette The Navigators de Ken Loach à des agents de la brigade de voie à Port-de-Bouc, pour nous, c'était la même question, c'est-à-dire, à un moment donné, faire la lumière sur des réalités.
Bravo, mécanicien, 75 660.
C'est toute une chaîne de personnes qui peuvent permettre à un train de rouler.
Bravo, France Gravolo, appelle le mécanicien du 75 660 au panneau 500.
Rentrer dans cette société où il fallait tout céder pour que ça marche,
déjà se sentir bien dans son